Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
C'est 23.
L'essentiel de Paul Arcand, tout ce que vous devez savoir chaque jour en moins de 60 minutes. Bonne écoute.
6h04 minutes, nous sommes aujourd'hui jeudi 21 avril avec un ciel qui est pour l'instant dégagé autour de 2 degrés. Et on aura de la pluie un peu plus tard, surtout cet après-midi. Ça va se couvrir tranquillement ce matin avec des vents de 30 à 50 km/h et le maximum prévu autour de 10 degrés. Cette pluie va cesser tard ce soir. Ça demeure nuageux pour la nuit, assez venteux même cette nuit avec des vents jusqu'à 70 km/h, minimum de 5 degrés. Et puis, on termine la semaine avec soleil, nuages, un peu de pluie le matin. Les vents sont légers, le maximum prévu demain, 10 degrés. Je vous donne l'aperçu rapide pour la fin de semaine. Là, ça peut évidemment changer. Mais samedi, c'est une assez belle journée. Ça demeure frais, là, 8 degrés seulement. Soleil, nuages. Plutôt gris pour dimanche avec possiblement un peu de pluie, 10. Et la bonne nouvelle, c'est pour ça que je vous en parle, c'est que dimanche, pour le moment, on prévoit du soleil et 20 degrés. Donc, ce serait la première journée depuis l'automne dernier qu'on a ce 20 degrés tant recherché et surtout combiné avec du soleil. On ne pourra pas établir le contact ce matin avec notre collègue en Ukraine, Tetiana Ogarkova, parce que les communications sont extrêmement difficiles. On a pu lui parler un peu plus tôt. Essentiellement, ce qu'elle nous a transmis comme information concerne la situation à Mariupol. D'abord, il y a cette nouvelle au sujet du fameux corridor humanitaire qui avait été promis, qui devait être installé pour 14 heures hier. Il y a quand même 4 autobus de civils qui ont pu quitter, semble-t-il, même si officiellement ce corridor a été plus ou moins utilisé. Également, pour ce qui est de la ville de Mariupol, Poutine dit qu'il est en contrôle, qu'il donne du temps aux soldats ukrainiens qui se trouvent dans cette usine gigantesque de se rendre. Alors, il étire encore la période avant, dit-il, de vraiment prendre le contrôle total de la ville. Il aurait, et là je vous parle toujours des prétentions russes, le contrôle de la zone portuaire. Et il y a quand même des militaires ukrainiens qui sont toujours donc dans les souterrains. Alors, la ville qui a été bombardée, une ville assiégée, résiste, mais de plus en plus difficilement. On l'a vu avec des propos hier, entre autres, de militaires ukrainiens. Et tout ça arrive au même moment où vous avez l'armée russe qui a fait ce qu'on appelle un premier essai, un test, un missile balistique intercontinental qui s'appelle Sarmat. Et semble-t-il que c'est le nec plus ultra de la technologie. Poutine dit qu'il n'y a pas de système antiaérien capable d'intercepter le missile en question. Et cet essai, donc, et la confirmation de cet essai, c'est bien sûr pour ajouter de la pression dans le contexte actuel. Donc, c'est un missile qui peut voyager facilement de 5000 km et atteindre sa cible. Alors, tout ça, donc, dans un contexte où, et on en parle moins, du jeu de la négociation. On sait que les alliés sont quand même avec encore des séries de mesures à annoncer. Et on tente de voir un peu l'effet des sanctions économiques. On donne de l'aide militaire, on fournit de l'équipement aux Ukrainiens. Mais ça demeure encore une fois une partie inégale, bien qu'il faille souligner, je pense, la résistance ukrainienne qui étonne beaucoup d'experts depuis le début. Alors, on y reviendra en détail un peu plus tard ce matin. Je veux reparler aussi de cette histoire terrible, là, ces jeunes filles qui ont fait l'objet d'images sexuelles explicites qui ont été distribuées. Donc, arrestation de 3 jeunes gars de 17 ans à Mercier. La Sûreté du Québec a travaillé le dossier avec la police de Mercier. Je vous en parle parce que les victimes, il y en a 5, minimalement. Des jeunes filles de 13 à 15 ans. Et je profite de l'occasion pour mettre en garde les parents, sans qu'on devienne tous collectivement parano. ce phénomène-là de l'exploitation sexuelle sur les réseaux sociaux est en croissance. Le Centre canadien de la protection de l'enfance a reçu, depuis le début de la pandémie, là, un nombre croissant de plaintes, de signalements. Puis il y a deux facteurs qu'on peut observer. Un, la hausse des signalements d'exploitation sexuelle de mineurs sur le web et à travers des réseaux sociaux très connus, là, que ce soit Snapchat, que ce soit TikTok, que ce soit Facebook, il y en a plein. Et la deuxième chose qui frappe, l'âge des gens impliqués baisse continuellement. Donc, des jeunes filles, des jeunes garçons de plus en plus jeunes. Et parfois, j'ai vu ça, à 16 ans, il y a un consentement qui est donné pour une relation sexuelle, un contact intime. Ce que la jeune fille ne sait pas, c'est qu'elle est filmée et que ces images-là se retrouvent après partagées. Et j'ai vu des cas là, où l'école au complet voit les images de la jeune fille en question. Vous imaginez l'impact. C'est sûr que quand ça vous arrive, vous êtes démoli. Et que ces jeunes filles-là, puis je les connais pas, puis évidemment, on protège leur identité, mais c'est un petit milieu, on sait que ça se passe à l'école Louis-Philippe Paré, qui est située à Châteauguay. Donc, juste vous mettre en garde de ça ce matin, ça me paraît important, comme parent, d'essayer de garder le contact le plus possible. Facile à dire, vous me direz, mais quand même avec vos ados, parce que ça peut arriver. Puis je peux vous dire que pour parler avec des policiers, pour parler avec des gens qui travaillent dans ce domaine-là, par exemple à la DPJ, il y en a plein. Il y en a plein qui, malheureusement... Et quand les images se retrouvent comme ça, ben ça disparaît jamais complètement. Là. Tu sais, tu peux pas arriver, puis on le fait avec des sites comme Pornhub et d'autres, qui c'est plein d'images. Puis vous savez, entre autres, que la politique canadienne fait en sorte que... On a beau faire des signalements. Le Centre canadien là, envoie des milliers, des milliers, des milliers d'avertissements à ses distributeurs de porno en disant « Vous avez des images avec des mineurs. » Puis là, ils vont accepter de les retirer. Mais la loi ne les force pas à regarder ce qu'ils ont dans leur nuage. Fait que, tu sais, l'autodiscipline des hébergeurs, là, on repassera. Fin de la parenthèse là-dessus. On va parler de politique un peu. Avec ce sondage léger qui était très attendu, Jonathan va nous en reparler tantôt. Alors, intention de vote au Québec, c'est une augmentation pour la CAQ qui passe de 41 à 44 %. Le Parti libéral est à 17, c'est à peu près son score habituel. Québec solidaire est à 15, c'est à peu près son score habituel. Le Parti conservateur d'Éric Duhaime est à 13, puis le Parti québécois est à 9 %. Donc, une large avance pour François Legault, et les autres partis sont loin derrière en restant à peu près là, dans leur position respective qu'on a vue dans les récents sondages. Mais c'est sûr que, encore une fois, pour le Parti libéral et pour le Parti québécois, ça confirme un score catastrophique en vue pour l'élection générale. On l'a vu dans Marie-Victorin, le PQ n'a pas gagné, mais c'était un château fort. Et on se serait attendu peut-être à une victoire. En tout cas, je pense qu'ils auraient souhaité une victoire. Dans le cas de Dominique Anglade, elle est comme tiraillée. Ce qui est fantastique, c'est que, quand vous regardez ça, là, pas capable de séduire l'électorat francophone et sème le doute dans les du côté anglophone. Puis on a vu l'ancien candidat à la mairie de Montréal, Balarama Holness, qui crée un parti anglophone. Puis c'est assez clair, là, le Mouvement Québec, là, c'est un parti anglophone basé sur quoi? Sur les frustrations, les déceptions concernant la loi sur les signes religieux, sur la laïcité, sur le renforcement du français. Alors, il veut tabler sur la grogne des anglophones dans les comtés anglophones. Et ça touche directement la clientèle libérale. Et on a posé quelques questions également. Il y a 8 Québécois sur 10 qui disent que la pandémie n'est pas terminée. 73 % des gens, toujours selon ce sondage léger là, qui est dans le Journal de Montréal, vont continuer de porter le masque la plupart du temps dans des lieux publics, même si la contrainte est levée. Et les Québécois sont divisés sur les responsables pour expliquer le drame l'hécatombe au centre de soins de longue durée Aaron de Dorval. Une personne sur quatre tient le gouvernement responsable. Plusieurs condamnent la résidence. Donc, c'est assez partagé. Tout le débat qu'on a vu, là, qui pointait particulièrement les ministres Mécan et Marguerite Blais. C'est vrai qu'hier, on l'a eu sur la gueule. Puis on vous le disait hier matin, là, je sais que les gens étaient comme un peu en état de choc parce que c'est pas une petite augmentation. Et la plupart des experts nous préviennent que pour les prochains mois, le prix de l'essence ne baissera pas. Le 2$ le litre de base, là, on risque de le connaître cet été. Puis je peux reprendre tout l'argumentaire, on le connaît par cœur, c'est-à-dire une plus forte demande des consommateurs. C'est l'été, on voyage, on se déplace. On a été confinés et là, on a le goût de bouger. Puis on va se déplacer en voiture, en camion, on va se promener en avion. Et en même temps, vous avez une pression, guerre, les marchés internationaux. Bref, tout est en place pour qu'on paie plus cher le litre d'essence, premièrement. Deuxièmement, on a vu le taux d'inflation évalué par Statistique Canada. C'est une augmentation de 6,7. On va régler là à 7 sur une base d'un an et c'est du jamais vu depuis le début des années 90. Ça aussi, vous le savez, ça coûte cher partout. La bouffe coûte cher, les matériaux de construction, ça coûte cher. Des gens qui ont des projets puis qui sont toujours en train de revoir le prix parce que ça change continuellement, c'est une énorme pression. Puis vos revenus, de façon générale, puis je pense encore plus à des gens qui sont retirés et qui ont des revenus, donc, fixes, c'est pas une très bonne nouvelle, tout ça. Et entre-temps, ben les taux d'intérêt vont continuer d'augmenter. Et aussi, on l'a vu encore cette semaine, pour le Grand Montréal, le marché d'immobilier est fou raide, avec des augmentations d'ici la fin de l'année d'à peu près 12. Tout ça pour vous dire que c'est un portrait économique qui est un peu stressant pour bien des gens, quoique les sondages disaient que les Québécois étaient parmi les Canadiens les moins énervés par ça, parce qu'il y a quand même, bon, des filets sociaux. Mais il y a beaucoup de gens là, qui m'en parlent, qui m'écrivent, là, puis qui commencent à voir qu'il y a une pression. Là. Tu sais, il y a des gens qui se sont endettés durant la pandémie, on s'est équipés, on a rénové, puis là, oups, le paiement passe toujours, mais avec, comme par exemple, la facture de la bouffe, quand vous allez à l'épicerie, c'est sûr que pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de pauses et il n'y a pas beaucoup de répit. Je vais parler aussi tantôt de ce procès au civil intenté par des employés qui étaient au Métropolis le soir, donc, où on a tenté de tuer la première ministre du Québec, Mme Marois. Les élections de 2012, il y a une affaire bien bizarre, bien étrange, à tel point que le juge dans le dossier a ordonné à la Sûreté du Québec de faire la lumière sur les menaces qui avait été faite contre Mme Marois. Il y en aurait eu 6 entre la fin de l'après-midi et le début de la soirée des élections. Qui savait quoi? Comment l'information a été transmise? Là, on comprend que la SQ, la garde rapprochée de Mme Marois, craignait que s'il y avait quelque chose, ça soit à l'intérieur. On ne s'est pas occupé de l'extérieur. Qui devait s'en occuper? Est-ce que c'était le SPVM? Comment ça se fait que, ben, puis je rappelle, là, un gars avec une espèce de casse de bain puis une robe de chambre qui réussit à se rendre si près sans être intercepté, peut comprendre les employés du Métropolis, des techniciens, techniciennes qui disent avoir été comme abandonnés, que c'est pas normal ce qui est arrivé là. Puis là, la Sûreté du Québec nous parle d'un rapport. Moi, on me dit qu'il y a un autre rapport qu'ils n'ont pas l'air d'être capables de trouver. Tout ça me semble bien étrange quand on regarde. L'avocate au dossier va être avec nous ce matin. La presse nous apprend qu'il n'y a maintenant aucun francophone au conseil d'administration du Canadien national. On n'est pas très surpris. D'abord, quand vous regardez l'historique du Canadien national, l'attitude arrogante à l'égard des francophones fait partie pratiquement de l'ADN de cette compagnie. Et même la Caisse de dépôt, qui est un des gros actionnaires, bien évidemment, n'est pas confortable avec ça et ne comprend pas pourquoi il y a une telle attitude. Et on a vu avec le PDG d'Air Canada, on le voit avec l'ECN ce matin. Il ne s'agit pas de trouver un froc de service, là. Il s'agit de faire la place à des gestionnaires. Puis il y en a des hyper compétents francophones. Mais tu sais, c'est comme un pied de nez. On n'a pas trouvé, nous autres, de francophones à la hauteur des besoins et des exigences du conseil d'administration. Rapidement, Quelques nouvelles ce matin dans les journaux. Vous allez voir, on raconte l'histoire d'un homme qui est accusé d'agression sexuelle et qui présente comme défense son problème de santé, c'est-à-dire sexomnie. Il ne se souvient pas ce qu'il fait. Quand il dort, il peut agresser sexuellement des gens ou en tout cas, son trouble de sommeil fait en sorte que c'est une forme de somnambulisme puis il ne réalise pas vraiment. Alors, on ne peut pas dire que ça a été donné souvent comme argument, là, et surtout que ça a été retenu par des juges ou encore des jurys, mais c'est une femme qui a été agressée, c'était en juillet 2018, et bon, ils se connaissaient, ils sont sortis, etc. Puis après la soirée, les deux femmes sont allées dormir chez l'accusé, puis à un moment donné, il s'est levé, et il l'a agressé, selon sa prétention. Lui dit, moi, je m'en souviens pas, j'étais somnambule à ce moment-là. Puis tantôt, on vous parlera du débat en France, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Peu d'effet sur les intentions de vote là, qui ont été prises après. C'est quelques points d'avance pour le président Macron. C'est nettement plus serré que la dernière présidentielle. Et on peut dire ce matin, comme beaucoup d'observateurs, puis quand vous voyez ça, le lot de commentaires en France, c'est quelque chose, là. De gens qui disent être déçus, qu'on s'est ennuyé, d'autres qui ont vu quand même un débat quand même intéressant, un Macron mieux positionné, une Marine Le Pen probablement mieux préparée. Mais donc, en conclusion, quelques points d'avance pour le deuxième tour de dimanche pour le président sortant, M. Macron.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
7h26. On revient sur une histoire qui avait fait la manchette. Un crime horrible. Une jeune femme qui avait été poignardée sauvagement par un individu. Elle ne le connaissait pas. Ça s'était passé à Westmount, sur la rue. Et Bénédicte a pu la rencontrer parce que c'est une jeune femme qui, après cette agression là barbare, garde malheureusement des séquelles de cette violence.
Des séquelles très graves. Et il faut le dire, c'est la première fois qu'elle accepte de raconter son histoire. Elle s'appelle Félicia Péché, jeune femme de 25 ans. Et je vais le dire d'emblée parce que je lui ai parlé pendant un petit moment quand même. J'ai vraiment été frappée par sa résilience à travers l'épreuve qu'elle traverse. Il y a eu autant des larmes que des fous rires dans ce qu'elle m'a raconté. Elle focus, elle essaie vraiment de voir ça du bon côté. Mais c'est horrible ce qui lui est arrivé quand même. Là. Ça remonte au 20 mars. Félicia était chez une amie. Elles écoutaient un film. Puis à certains moments, aux petites heures du matin, elle est sortie, voulait prendre l'air. Et là, elle a croisé le chemin de Curtis Jonas, un homme de 42 ans. Et ce qu'elle m'a expliqué, c'est que selon elle, il l'a pris pour quelqu'un d'autre. Il lui a demandé de lui remettre ses affaires. « Redonne-moi mes affaires », c'est ça qu'il lui a dit. Puis l'affaire suivante qu'elle a su, il était en train de s'en prendre à elle. Il s'est jeté sur elle. Elle avait l'impression qu'elle recevait des coups de poing, mais en fait, c'était des coups de couteau. Elle en a reçu une dizaine. On parle de coups de couteau surtout autour du cœur. Elle a encore des cicatrices qui commencent à peine à guérir, mais aussi un à la tête. Et celui-là a causé vraiment beaucoup de dommages. Depuis deux semaines, elle est dans un centre de réadaptation du côté de Laval. C'est là que je suis allée la rencontrer. Et on le disait, des séquelles assez graves, entre autres parce qu'il y a une partie de son corps, du côté gauche, qui reste paralysée pour le moment.
J'ai pris la mauvaise rue, puis ça a pas pris de temps que soudainement, j'étais couchée par terre. Puis je me suis ramassée dans une ambulance. Next thing I know, je suis à l'hôpital, tu sais. Dans le fond, le bras et la jambe bougent plus. Au début, j'avais le côté gauche du visage aussi qui fonctionnait. Je souriais tout croche. Là, c'est revenu.
Donc maintenant, elle se déplace en chaise roulante. Ce qu'elle m'explique, c'est qu'elle sent son bras, mais elle n'a aucun contrôle sur lui. Elle n'est pas capable de le bouger. Et à chaque jour, ben, elle a son quotidien, c'est des rendez-vous avec des physiothérapeutes, des ergothérapeutes, des psychoéducateurs. Bientôt, elle va rencontrer un travailleur social parce qu'on s'entend qu'elle a tout à réapprendre. Il faut qu'elle réapprenne à bouger. qu'elle assimile une nouvelle réalité aussi. Et sa mère m'a réécrit il y a quelques jours, juste avant que je la rencontre, pour me dire qu'elle voulait lui changer les idées puis essayer de réintégrer des nouveaux éléments dans sa vie. Donc, elle l'a amenée au cinéma samedi dernier. Et là, on s'entend que c'est complètement autre chose. Une totale nouvelle réalité. Il faut prévoir un transport adapté. Tu t'assis pas à la même place au cinéma. Et c'est là qu'elle a réalisé comment tout est à revoir, notamment dans ses habitudes.
C'est beaucoup d'adaptation sur plein de petites choses que, mettons, tu sais, on pense pas que ça a vraiment juste l'air naturel, mettons, comme manger du popcorn. Tu sais, je veux dire, tu t'en rends pas compte, mais tu le tiens d'une main puis tu manges avec l'autre. Mais là, ben, j'en ai juste une. Fait que...
Et c'est ça qui est le plus difficile pour elle. Là, il faut qu'elle mette tous ses plans qu'elle avait sur pause. Jeune femme de 25 ans, elle allait à l'école, elle devait déménager. Là, c'est plus ça. Le camping, c'est sa passion. On s'entend que pour l'instant, le camping, c'est pas réalisable et ça risque d'être pas mal plus compliqué. Les petits gestes les plus simples qu'elle n'arrive plus à faire, c'est vraiment ça qui est difficile. La perte d'autonomie. Elle peut plus aller à la salle de bain toute seule pour l'instant. Elle dit ça, c'est une des affaires que j'ai eu le plus de misère à accepter. Et ce que les médecins lui ont dit, ils lui ont parlé d'un délai d'un an pour que ça revienne de son côté gauche. Regardons sur un an les évolutions qu'il va y avoir. On n'est pas capable de prévoir comment ça va avancer, pas capable de prévoir comment ça va changer. Et c'est ça aussi qui est difficile. Elle n'a aucune idée de sa prochaine année, de quoi elle va être composée, mais elle dit il faut vraiment s'accrocher. Ce sont des petits pas, des petits efforts, des petits apprentissages à chaque jour.
Toutes les petites choses que, mettons, on apprend des enfants, que là, il faut réapprendre. Ouais. Tu sais, mettons, attacher ses souliers, mettre un chandail. Même aujourd'hui, j'ai eu le goût de pouvoir m'asseoir toute seule dans mon lit. C'était comme sur le bord de mon lit parce que au début, j'étais pas capable de me tenir, mettons, droite. C'est juste une chose, tu sais, ça a l'air banal. Tu sais, c'est pas... C'est moi, pour moi, le premier pas, ça va être... vraiment, quand je vais prendre... C'est, mettons, le premier pas en tant que tel.
Il y a un autre élément qui est intéressant dans son témoignage, c'est que malgré le caractère violent de l'agression, le fait qu'elle ait été choisie au hasard, que c'est une erreur sur la personne, elle n'en veut pas du tout à son agresseur.
Et c'est ce que sa mère m'avait dit dès le départ. Et des fois, on se dit, on peut dire ça sous le coup rapidement, mais là, je te dirais que ça fait un mois et c'est le même message qu'elle me répète. C'est sûr qu'il y a des moments plus difficiles. Félicia, elle me dit que psychologiquement, elle va quand même bien, mais surtout justement pour ça, parce que l'attaque, elle dit, c'est un geste isolé. Elle dit, c'est pas moi en tant que Félicia qui était visée, il m'a pris pour quelqu'un d'autre. Et pour elle, c'est vraiment la différence. Elle dit, j'ai hâte de pouvoir ressortir dans la rue. Moi, j'ai pas l'impression que je vais avoir peur parce que je sais que c'est quelque chose qui est arrivé comme ça. Il faut le spécifier quand même. Curtis Jonas, c'est un homme qui a plusieurs antécédents. Dans ce dossier-là, accusé de tentative de meurtre, de voies de fait grave, il a changé d'avocat, il reste derrière les barreaux pour l'instant, doit revenir en cours en juin. On peut s'attendre à ce qu'il y ait quand même des examens psychologiques qui soient faits parce que c'était une des hypothèses soulevées, qu'il ait des problèmes de santé mentale. Moi, j'avais rencontré sa mère quand ça s'était passé. J'étais allée à sa rencontre et elle m'avait dit qu'il n'y avait pas de problème de santé mentale connu, mais que c'était quelqu'un qui était quand même reconnu pour être agressif. Quelqu'un qui était reconnu pour être très, très réactif. Donc, clairement, on va voir ce que ça va donner dans le processus judiciaire. Mais Félicia, elle, c'est ça qu'elle garde en tête. Elle est persuadée qu'elle a été au mauvais endroit, au mauvais moment, et ça l'aide vraiment à avancer, justement.
On regarde bizarre quand je le dis, mais j'en veux pas. Tu sais, je dis, oui, c'est con ce qu'il a fait, mais en même temps, sur le coup, il était pas là, là. Puis je le voyais dans ses yeux, là, il était pas là. Puis est-ce que la violence en vaut vraiment la peine? Pour vrai, là. Il y a tout le temps un autre moyen. Tout le temps un autre moyen.
Donc, ça fait pas mal réfléchir ce témoignage-là ce matin. Et elle, on comprend qu'elle a plusieurs défis, puis elle va tenter de les relever un après l'autre.
Un après l'autre, parce qu'on s'entend que cette rencontre-là, elle a duré à peine quelques minutes. Mm-hmm. Mais pour elle, ça change tout le cours de sa vie. Il y a une chose qui est claire, elle dit... Ça m'arrive, je suis quand même assez jeune, j'ai beaucoup d'années devant moi. Je refuse que je me fasse définir par ça dans l'avenir. Je peux pas me permettre que toute ma vie soit concentrée sur l'agression que j'ai vécue à 25 ans. Ma vie ne s'arrête pas là.
Ça sera pas, je m'arrêterai pas là, mettons. Tu sais, ça sera pas, mettons, oh, j'ai été poignardée, c'est la fin de ma vie à 25 ans. Non, t'as encore envie, tu sais, il y a autre chose. Puis il va y avoir autre chose. Que ça soit en chaise roulante ou que ça soit en marchette ou à pied ou avec une canne ou même pas. Il va y avoir autre chose, tu sais. Ça s'arrête pas là.
Quand on écoute un témoignage comme ça, on trouve que nos problèmes sont bien petits. Ouais. que nos bobos sont un peu insignifiants par rapport à ce qu'elle a, elle, à vivre, puis ce qui l'attend quand même, là, puis l'attitude qu'elle affiche dans un contexte comme celui-là, c'est assez impressionnant.
Elle a utilisé une image que je trouve très forte dans ses mots. Elle dit « J'ai été mise en échec, mais je n'ai pas été mise en échec et mat. » Elle dit « Il y a quelque chose qui est arrivé, mais j'ai encore de la force. » Elle a beaucoup de résilience. Et là, je parlais, on a fait la chronique tantôt, et entre-temps, sa mère, parce que j'ai gardé bon contact avec elle, m'a écrit. Elle me dit « Hier, sa hanche a bougé. C'est un début. » Donc vraiment, on s'accroche à chaque chose. Comme je te disais, il y a un délai d'un an quand même, mais il y a des avancements comme ça qui risquent de se faire sentir, des mini-changements qui risquent de se faire sentir dans les prochaines semaines. Elle est très bien entourée. Ça, c'est quelque chose aussi qu'elle a réalisé. Elle dit, on réalise jamais à quel point nos proches sont présents et importants que quand ça arrive, tu sais, on s'entend qu'à 25 ans, dans un centre de réadaptation, là,
c'est sûr.
C'est pas là que t'es habitué de passer tes journées. Donc, elle a une bonne équipe là-bas aussi. Évidemment, on lui souhaite que ça s'améliore. Elle va suivre le processus judiciaire. Comme je te disais, elle n'est pas nécessairement, amère, là, elle comprend que le gars l'a visé au hasard, mais elle veut quand même suivre comment ça va se passer, sa mère aussi. Pour ses parents, c'est peut-être un petit peu difficile. Sa mère, je la sentais quand même détachée, mais ils se laissent, je te dirais, impressionner par comment elle réagit à ça. Ne pensaient pas nécessairement connaître bien leur fille, là, mais sont impressionnés de voir la force qu'elle a en fait.
Bien, ils ont raison, parce que juste de l'entendre ce matin, c'était important, je pense, de partager avec nos auditeurs et nos auditrices ce qu'elle avait à dire. Quand on parle de résilience, des fois, c'est un peu galvaudé, mais dans son cas, ça prend tout son sens.
Et surtout, je trouve que dans nos chroniques qu'on fait, on dit souvent l'expression « bon, on ne craint plus pour sa vie ». Heureusement, on ne craint plus pour sa vie. Pour des victimes, ça s'arrête pas nécessairement
non.
là. Il y a un cheminement, puis le cheminement, parfois, il est pas mal plus difficile pour certaines personnes. Ça, c'en est un exemple, donc, ce matin.
Merci, Bénédicte. Maintenant, on va parler du procès des techniciens de scène du Métropolis, évidemment, suite à l'attentat contre la première ministre, Pauline Marois, l'élection de 2012. Et sincèrement, c'est un procès où on apprend des choses pour le moins étonnantes. On sait que c'est une poursuite qui vise la Sûreté du Québec, le SPVM, donc la police de Montréal. On réclame 600 000 $ pour les dommages. Et ce qu'on pointe du doigt, c'est la sécurité défaillante. Le fait qu'il y avait, entre autres, pas de protection policière à l'arrière du Métropolis. La Sûreté pensait que la menace était à l'intérieur. Mais là, ce qui est encore plus spécial depuis le début de ce procès, c'est le juge Bélanger qui a demandé à la Sûreté du Québec de venir expliquer ce qui s'est passé dans la gestion des menaces qui visaient Mme Marois. Des menaces reçues en fin d'après-midi et jusqu'en début de soirée, le jour de l'élection. Qui savait quoi? Qu'est-ce qu'on a fait avec ça? Et comment expliquer, visiblement, là, qu'il y a eu un problème de communication à tout le moins? Maître Virginie Dufresne-Lemire est avec nous. Elle est l'avocate qui représente les demandeurs qui sont des techniciens de scène. Madame Dufresne-Lemire, bonjour.
Oui, bonjour.
D'abord, expliquez-nous le contexte un peu plus là, de ce que le juge veut avoir concernant les menaces contre Mme Marois.
En fait, le juge a souligné une lacune dans la preuve. C'est que dans le rapport exécutif, là, donc le fameux rapport qu'on a beaucoup parlé, il est indiqué que la journée même du dévoilement des élections, il y avait eu 6 menaces qui avaient été reçues et que ces menaces avaient été enquêtées. Et là, dans le cadre du procès, on a posé des questions à chacun des témoins là, de la SQ pour savoir c'est quoi ces menaces-là, c'était quoi la nature, qui en a entendu parler, etc. Et il n'y a aucun témoin qui a été en mesure de répondre aux questions. Et là, donc, on se retrouve à la fin du procès et il y a cette lacune-là qui est encore à combler. Et donc, le juge a demandé au procureur général du Québec, qui représente la Sûreté du Québec, de répondre à 3 questions. Donc, quelles étaient ces menaces? Qui a enquêté sur ces menaces et à qui on a informé de l'existence de ces menaces?
Et le fait de savoir ça, donc d'avoir la réponse à ces questions, va quoi? Permettre de savoir quel type de mesures ont été prises le soir pour protéger Mme Marois et quelles mesures n'ont pas été prises, puis si l'information s'est rendue jusqu'aux gens qui étaient responsables.
Mais pour le moment, c'est difficile à dire quelle va être l'utilité de cette information-là, puisqu'on n'a aucune idée de la nature de l'information. Mais c'est évident que c'est une information qui est importante. À la base, nous, ce qu'on reproche, c'est que, menace ou pas menace, il fallait surveiller toutes les entrées et sorties, incluant l'extérieur là, de ces entrées et sorties-là, surtout que c'était la porte de sortie de Mme Marois qui était prévue. Donc, menace ou pas menace, pour nous, il y a eu une faute. Mais c'est sûr que si, dans la journée, il y en a eu, et qu'elles n'ont pas été communiquées ou qu'on n'a pas adapté le plan de sécurité, pour nous, c'est une faute supplémentaire. Mais pour le moment, on n'a pas la réponse à cette question-là, donc on va attendre de voir les développements au courant de la semaine prochaine.
Okay. Moi, je suis ça de l'extérieur. Là. Vous, vous êtes au procès. Mais quand j'entends, en fait, quand je lis des comptes rendus de certains témoignages, ça ressemble à être un rapport, celui qui a été rendu public, là, et qu'on ne voulait pas rendre public, un rapport commandé, pratiquement dicté. Est-ce qu'il y a d'autres rapports qui existent? Est-ce qu'il y a des documents qui ont disparu? Qu'est-ce que la SQ a entre les mains ou qu'est-ce que la SQ refuse de rendre public?
Ah ben là, je suis certainement pas le bon témoin pour répondre à ça parce que je ne sais pas ce qu'ils ont entre leurs mains, ce qui a été donné, pas donné. C'est sûr que nous, on savait qu'il y avait l'existence de ce rapport-là puisque le ministre, à l'époque, avait fait une sortie publique où il avait dit « j'ai reçu ce rapport d'enquête, il fait état de problèmes de communication, etc., etc. » Donc, nous, c'est grâce à ce communiqué-là qu'on a su que le rapport existait. Mais c'est difficile de demander des choses quand on ne sait pas s'ils existent. Donc, est-ce qu'il y a eu d'autres rapports? Est-ce qu'il y a eu des documents importants qu'on n'a pas eu, c'est possible. Nous, on a tenté d'avoir le plus d'informations possible, mais c'est sûr que moi, je ne peux pas répondre à cette question-là.
Mais c'est bien étonnant parce qu'il y a des gens qui étaient là à l'époque qui me disent qu'il y a eu un premier rapport de fait dès le mois de septembre, en fait, dans les mois qui ont suivi là, les événements, et que semble-t-il qu'il n'y a plus personne qui parle de ce rapport-là.
Ben écoutez, on en apprend tous les jours, donc pour moi, c'est une information que je n'ai pas et qu'on ne m'a pas communiquée, mais c'est bien possible. C'est sûr qu'on entend, il y a beaucoup de rumeurs, on entend des choses là, depuis que le procès sort, là, il y a des gens qui viennent de l'avant pour témoigner, donc c'est pas une hypothèse qui est farfelue de croire qu'il y a eu d'autres rapports.
Puis surtout, et vous l'avez dit, la porte en question non protégée, c'était la porte qui était assignée si on devait sortir Mme Marois du Métropolis. Mais je l'ai dit au début, comment expliquer qu'un individu comme Bain ait pu se rendre jusqu'à la porte en question, blesser des gens, mettre le feu dans l'objectif d'entrer à l'intérieur du Métropolis puis qu'il n'y avait pas de présence policière?
Ben, tout à fait. Pour nous, c'est difficilement compréhensible. C'était la porte de sortie. C'était pas une porte de sortie au cas où. C'était la porte de sortie de Mme Marois et son véhicule s'y trouvait. Et là, on a un gardien à l'intérieur, mais on a personne à l'extérieur. Donc, comment est-ce qu'on s'assure de sécuriser le périmètre intérieur si on n'a pas Dieu à l'extérieur, si on ne sait pas ce qui se passe? Donc, c'est sûr que pour nous, c'est une erreur. Mais après, faut voir comment va se dérouler le reste du dossier.
Absolument. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée.
Ça fait plaisir. Bonne journée.
Au revoir. Maître Virginie Dufresne-Lemire, qui est l'avocate qui représente les demandeurs, les employés de scène qui étaient présents le soir de l'attentat, qui ont tous témoigné pour dire à quel point ils avaient été marqués, qu'il y avait eu des séquelles.
Vous écoutez l'essentiel de Paul Arcand en 60 minutes. De retour après la pause.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
L'essentiel de Paul Arcand. Tout ce que vous devez savoir en moins de 60 minutes.
Parfait. La semaine dernière, on parlait de ce projet annoncé par la Ville de Montréal concernant les Publisacs. C'est un long, long débat. Et l'idée, c'est pas de prétendre que les rabais sont pas intéressants, là, surtout en période d'inflation, mais c'est de dire aux citoyens, si vous voulez recevoir les fameux Publisacs en question, ben il y a un autocollant que vous poserez sur la porte. Autrement dit, si vous en voulez, vous le dites, mais si vous dites rien, ben on devine que vous en voulez pas. Vous comprendrez, puis on l'a vu la semaine dernière avec le VP de Transcontinental, ça fait pas leur affaire. Et la ville de Mirabel avait déposé un règlement qui est entré en vigueur au mois d'octobre 2019 et qui donne aux citoyens le choix de recevoir ou non les fameux imprimés publicitaires, les Publisacs en question. Donc, il y a une décision qui a été rendue hier par la Cour supérieure qui donne raison à la Ville. C'est clair que Transcontinental va aller en appel, mais le maire de Mirabel est avec nous, Patrick Charbonneau. Monsieur Charbonneau, bonjour.
Bonjour, M. Arcand.
Ben, parlez-moi d'abord du règlement. Qu'est-ce qui vous a amené à la municipalité à passer ce règlement-là, là, qui est entré en vigueur au mois d'octobre 2019?
Ben écoutez, nous, on se faisait quand même interpeller régulièrement là, par nos citoyens là, qui nous mentionnaient qu'ils recevaient les publics-sacs puis ils n'en voulaient peut-être pas nécessairement et que ça se retrouvait à ce moment-là là, un peu dans la nature et partout au vent. Donc, la réflexion a commencé de cette façon-là, puis à force de discussion, là, on est arrivé là, avec l'option là, de pouvoir donner le choix aux citoyens de le recevoir ou non là, avec l'application des autocollants.
OK. Et là, ce règlement-là, il est en vigueur actuellement?
Oui, le règlement est en vigueur. C'est sûr qu'il n'est pas respecté jusqu'à maintenant, mais avec le jugement là, qui est tombé hier, là, on espère là, que ça va être respecté là, pour les prochaines semaines et mois à venir.
OK, juste pour que ça soit bien clair, ça veut dire qu'actuellement, la distribution à Mirabel des publics-sacs se fait comme dans toutes les autres villes?
Exactement, malgré les autocollants.
OK, donc est-ce qu'il y a beaucoup d'autocollants qui ont été demandés par des citoyens qui veulent obtenir le publics-sac?
Je pourrais pas vous sortir un chiffre comme ça, là, mais c'est certain que quand vous vous promenez, là, vous en voyez là, assez régulièrement.
Donc, des gens qui veulent obtenir la publicité en question, là?
Oui, il y en a qui le veulent, donc ils ont apposé leur autocollant, mais c'est surtout au niveau de ceux là, qui n'en ont pas, là, qui le reçoivent toujours.
OK. Donc, vous savez pas c'est quoi le ratio, j'en veux pas, là, 50-50, j'ai aucune idée?
Ah, écoutez, il aurait fallu que je me promène en voiture et que je les compte, là, mais c'est assez difficile comme travail, là. Malheureusement, non, je l'ai pas fait.
Qu'est-ce que vous répondez? C'est un des arguments de Transcontinental, dire que c'est bien compliqué gérer ça du porte-à-porte, que c'est mieux quand, finalement, les gens qui en veulent pas le disent puis que les autres le reçoivent.
Bien, c'est certain que cette façon de faire là, a ses inconvénients, mais quand on est rendu en 2022 et que l'environnement a pris autant d'importance, il faut vraiment trouver des nouvelles façons là, de pouvoir réduire à la source. Donc, nous, on a agi dans notre champ de compétences, on a trouvé un règlement qui, un, ne brime pas le droit des citoyens de le recevoir ou non, et en même temps, l'effet de ça, là, c'est de réduire à la source. Donc, nous, on est bien contents de ce règlement-là. Là.
Bon, là, la cause va se retrouver en appel, évidemment. Vous avez dépensé combien en frais d'avocat contre Transcontinental?
Bien, écoutez, c'est sûr que je pourrais pas vous sortir un chiffre comme ça, là, mais nous, à l'interne, on a la chance là, d'avoir un service du contentieux extrêmement efficace. Donc, on a été capable, là, à même nos propres services, là, de pouvoir plaider notre cause. Là. Donc, à ce moment-là, c'est certain qu'on a une économie. Mais au-delà des sommes, faut vraiment regarder l'effet à long terme. De un, on suscite un débat question environnement. Puis, de deux, ce débat-là, il faut le faire à un moment donné en 2022. Là.
Est-ce que la Ville de Montréal a regardé votre règlement? Est-ce qu'ils vous ont appelé votre contentieux pour voir comment vous aviez fait ça à Mirabel?
Pas à ma connaissance. Ils nous ont pas téléphoné là, pour ça. Là. Peut-être plus au niveau de l'administration, là, mais au niveau politique, là, moi, j'ai pas reçu de coup de téléphone comme tel.
En tout cas, vous êtes en avance sur Montréal?
Bien, il s'en prenait un premier, puis on est bien content que ce soit nous.
Merci, M. Charbonneau. Bonne journée.
Hey, merci, pareillement.
Patrick Charbonneau, le maire de Mirabel. Bon, c'est une première décision, il y aura un appel, mais quand même, et là, le règlement n'est pas appliqué. Ce qui va être intéressant de voir, c'est que là, on va l'appliquer. Donc, les gens qui veulent recevoir les publics-sacs en question, les circulaires, ben vont strictement mettre l'autocollant. Puis s'il n'y a pas d'autocollant, c'est qu'on présume que vous n'en voulez pas. Et là, c'est sûr que Transcontinental va en faire une bataille quand même importante. Ben là, on est ailleurs complètement. C'est ce soir, la grande finale. Tu parlais du deuil, les gens qui écrivent sur les réseaux sociaux, les gens qui le savent, qui se préparent.
C'est comme une peine d'amour, hein?
Et à 7h30, nous passons à autre chose collectivement au Québec. Deux invités ce matin pour parler de ce grand moment de télé. Catherine Proulomé est avec nous, qui a incarné le personnage de Florence Guindon. Bonjour.
Bonjour.
Et notre ami Gildor Roy. Bonjour, Gildor.
Bonjour, bonjour Catherine.
Allô.
Bonjour Catherine.
Allô.
Je vais commencer avec Catherine Proulomé. On a appris à vous découvrir dans cette série. En fait, quand je dis vous, je parle du personnage qui est arrivé dans le district 31, qui a pris la place de quelqu'un, puis tranquillement, puis assez vite même, s'est affirmé pas mal.
Ben oui, on a découvert quand même un personnage avec beaucoup de caractère, à mon grand plaisir, parce que j'aime bien jouer les personnages qui ont du caractère. Mais oui, c'est vrai qu'on a pris du temps peut-être à découvrir ce personnage-là, à l'aimer même peut-être, puis à découvrir un peu son côté revendicatrice, féministe. Mais ouais, elle a eu une belle évolution, la Florence.
Et Catherine, d'ailleurs, vous avez joué dans Unité 9 aussi, qui avait été un gros, gros succès, un rôle de prisonnière. Là, cette fois-ci, c'est la policière. Lequel vous avez préféré entre les deux?
Ah, mon Dieu, c'est tellement différent à jouer. Je dirais que au niveau de la composition de personnage, il y avait quelque chose avec le personnage dans Unité 9 de Michel qui était vraiment particulier, puisque c'est rare comme actrice qu'on a la chance à la télévision de faire des rôles de personnages. Fait que c'est sûr qu'il y a quelque chose de particulier avec Michel où j'ai vraiment l'impression d'être sortie complètement de moi-même. Puis après ça, avec Florence Guindon, ben c'est aussi de la chance de pouvoir le jouer dans le temps, tu sais, de jouer un personnage pendant aussi longtemps. Je sais pas, Guédard en a fait encore plus que moi, là, mais tu sais, après plusieurs journées de tournage à défendre ce personnage-là, c'est sûr qu'on s'attache aussi parce que j'ai pu creuser, j'ai pu le définir de plus en plus. Fait que c'est vraiment comme un processus de travail et de création bien différent, mais c'est une réponse plate, mais j'ai bien aimé les deux pour des raisons.
Non, mais c'est correct. mais est-ce que, comment je dirais ça? Comment on gère ce succès de groupe? Là, je comprends, c'est une série, les acteurs, les auteurs, en fait, l'auteur, tout le monde. Mais de voir que c'est presque devenu une série culte, que les gens font leur deuil. Moi, je vois passer des commentaires, Catherine en a résumé tantôt, d'espèce de vide qui va se créer à partir de ce soir puis qui va être ressenti encore plus l'automne prochain.
Ben, vas-y, Guildard, je te laisse répondre.
Celle-là, tu me la laisses, hein, bon. c'est surréaliste. Nous autres, c'est un mois, cinq semaines qu'on a fini de tourner, un mois peut-être. Là. Fait que d'être replongé là-dedans, c'est difficile à comprendre. Puis moi, tu vois, à l'épicerie, je dis toujours aux gens qui m'arrêtent là, depuis une couple de semaines, c'est terrible. Il va en avoir un autre show après, puis dans un an, vous y penserez plus, ça va être correct. C'est pas grave. Ce qui est grave, c'est être ukrainien. Ça, c'est grave aujourd'hui. Mais que District finisse, c'est pas si grave que ça, là, tu sais. En fin de semaine, on y pensera plus.
Mais vous êtes entré dans le cœur des gens, quand même.
Ouais, je sais bien. Puis pour parler du personnage de Florence Guindon, là, si vous me le permettez, c'est un genre de personnage de série qui est sous-estimé, tu sais. Elle est là, puis elle fait sa job, puis mais suivez-la jusqu'à la fin du dernier épisode.
Oh, t'es fin, Guildard. Mais c'est vrai que c'est surréaliste, ce phénomène-là, puis l'engouement, puis le dossier spécial sur la fin du district, les entrevues, là, c'est vrai, c'est vraiment surréaliste.
Mais en plus, tu sais, quand tu dis deux saisons en pleine pandémie, là, plus ou moins avec confinement, pas confinement, il y avait quelque chose de rassurant de savoir que vous étiez là, que le commandant Chiasson était en charge, que les ripoux traînaient, mais qu'il y en a qui s'en occupaient, faisait du bien quelque part, ça, Guildard?
Ben, même masqué, on pognait les bandits pareil. Mais oui, effectivement. Puis à un moment donné, il y avait juste nous autres qui tournaient là, au Québec. Puis on était comme le seul show qui marchait encore. Fait que j'imagine qu'il y a beaucoup de monde que ça a rassuré, puis qui se sont distraits de la situation plate qu'on vivait avec ça. Fait que tant mieux, tu sais, ça fait partie de notre job aussi.
Il y a une chose qui revient à toutes les entrevues qu'on a fait avec les comédiens, avec Luc Dionne, avec Fabienne. On parle beaucoup de la gang de district. Comme quoi, c'était une gang tissée serrée. Vous étiez rassemblés ensemble. Vous dites même, oui, on était contents là, bon, de terminer la série parce qu'on peut passer à autre chose, mais on va s'ennuyer de la gang. Qu'est-ce qu'il y avait de si particulier, cette gang-là?
Ben, c'est juste le fait de se voir aussi souvent sur une base régulière. Il n'y a aucun projet qui fait ça. Là, moi, dans mon année, sur 8 mois, je pense que j'ai plus vu ces gens-là que ma propre famille. Fait que c'est de développer un rapport au quotidien. C'est vrai que ça solidifie les liens, ça crée comme une chimie, puis tu sais, on parle souvent de l'esprit de famille puis de camaraderie sur les plateaux, mais je pense que sur District, le fait d'être dans une quotidienne, dans cette continuité-là, ça, c'est encore, je sais pas, j'ai l'impression que c'est encore plus fort. Je sais pas, toi, Gildor?
Ben, écoute, la gang de District connaissent mes petits-enfants depuis qu'ils sont nés, là, tu sais. Puis il y a des couples qui se sont formés, puis du monde qui ont eu des bébés dans la gang, puis dans l'équipe technique aussi. Fait qu'à un moment donné, ça devient... C'est le cliché classique, là, mais c'est vraiment, il y a quelque chose de familial là-dedans. Puis ce soir, on va regarder le dernier épisode, toute la gang ensemble. Mm-hmm. Et, fait que ce qui est le plus dur dans tout ça, là, c'est que ce soir, c'est la dernière fois qu'on va être tous réunis ensemble, probablement.
Ouais.
Ça, ouais, ça va être weird. Ça va être bizarre un peu.
Je veux juste insister sur un dernier point, pas strictement avec vos personnages, mais avec, je dirais, presque l'ensemble des personnages. À force de regarder comme c'est une quotidienne, il y a quand même des valeurs qui apparaissent. Puis là, je vais prendre le cas du personnage de Florence Guindon, puis après ça, je parlerai du commandant Chiasson, mais on a vu une policière impliquée, quelqu'un qui avait aussi des principes, qui avait une réaction, là, pas d'employé de l'État, là, mécanique, mais... Une femme humaine qui était face à la douleur des gens puis qui voulait aider. C'est important que des personnages comme ça soient présentés à l'écran.
Ben, je pense que oui. Je pense que ça humanise beaucoup le travail de policier, tu sais. Puis je pense que je fais pas ce métier-là pour vrai dans la vie, mais j'ai l'impression que c'est pas un métier facile. Tu sais, on a beaucoup de préjugés par rapport aux policiers. Puis, tu sais, fait que je pense que le fait de donner un côté humain, un côté où on les voit, tu sais, avec de l'empathie, avec de la compassion, avec de... Oui, je pense que c'est important. En même temps, tu sais, je pense qu'il ne faut pas basculer non plus parce que ça reste une job. Puis je trouvais ça, c'était le fil, on dirait, entre que je trouvais difficile, tu sais, d'être humaine, d'être dans la compassion, mais de pas trop embarquer là-dedans parce que ça reste son travail. Mais oui, je pense que c'est important de montrer, surtout en ces temps difficiles, que même dans une position d'autorité, de pouvoir, oui, l'humanité existe, puis c'est important d'être à l'écoute, puis d'être sensible, puis d'avoir de la compassion. Ouais.
Quant à toi, Gildor, d'avoir ce personnage du commandant Chiasson avec son petit téléphone magique, qui est un peu ratoureux, qui fait pas nécessairement ce que la loi prévoit, mais en même temps, tu l'as pas fait. Là, je parle du personnage à des fins personnelles. T'as fait un job de commandant qui a dépassé le cadre, là, qui est sorti du carré de sable, mais tu l'as fait, puis moi, j'ai des policiers qui m'ont dit, ils nous inspirent, le tabarnouche. Mmh. On aimerait ça, nous autres aussi, faire des affaires de même, des fois.
Mais je sais que le travail policier est bien difficile à cause des règlements, puis à cause des procédures à suivre, puis souvent, il y a des gens qui s'en tirent au procès parce que la procédure policière puis les règlements font que on peut pas le condamner vraiment. Je sais, il y en a plein de policiers qui m'en ont raconté des affaires de même. Puis, tu sais, la vie serait plus simple si, parfois, on pouvait tourner le coin rond pour finalement faire le bien au bout du compte, tu sais. Mm-hmm. Et ça, je pense que les gens aimaient ça. Parce que c'est compliqué, la société dans laquelle on vit. Puis ça rejoint le personnage de Florence aussi. Mm-hmm. En ces temps où ce qui compte, c'est comment tu trends, puis la cote d'écoute, puis qu'est-ce qui est populaire, la compassion, puis le sacrifice de soi. Parce que Chiasson, là, il fait tout ça, là, puis c'est drôle, son téléphone magique. Mais je suis pas sûr qu'il dort bien la nuit, par exemple. Mais c'est un genre de sacrifice qu'il fait pour qu'à la fin de la journée, ou quand le jour où il va prendre sa retraite, s'il se rend jusque-là, le monde sera une place un peu meilleure, dans le fond, là, tu sais. Ça, je pense que ça a plu aux gens.
Ça termine tellement bien l'entrevue. Merci beaucoup, vraiment, à tous les deux, d'avoir merci. Été avec nous ce matin.
Grand pis, plaisir.
On a hâte ce soir.
Paul, merci. Merci pour l'appui que tu as donné à Siri tout le long. Ça a été vraiment apprécié. Merci beaucoup.
Je pense que ça n'aura pas changé grand-chose au résultat.
Avec les codes d'écoute,
bonne dernière,
hein,
bonne...
ouais,
bonne dernière à tous les téléspectateurs.
Ouais, oui.
Merci à tous les deux. Bonne journée. Alors,
bonne
c'était
journée.
Catherine Proulx-Lebé, sergent détective Florence Guindon, Gildor Roy, le commandant Chiasson.
Là, j'espère qu'on ne broyera pas trop. Là. Moi, quand j'entends les indices de Gildor...
T'es pas une broyeur, toi, là.
Non, mais peut-être à soir. On va voir.
Et Luc Dionne sera avec nous demain. Ouais. Là, on va pouvoir parler de choses dont on ne peut pas parler avant.
Ben oui, c'est ça.
Tu comprends, ça va être fini, là. Ouais. Ça va être réglé.
C'est 23.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.